Oui. Ben vous avez la parole.
Moi, ce que j'ai envie de dire là, c'est que on voit bien, avec ce que tu viens de montrer, que Thalès, c'est évidemment un théorème d'air, puisque rien à faire, on n'arrive pas à s'en sortir. On ne sait pas, quoi. Non, mais c'est fort, quand même. C'est quand même deux théorèmes, le théorème des milieux et le théorème de Thalès, c'est quand même ces deux entités qui ont... Finalement, j'aime pas dire que le théorème du milieu, c'est un cas particulier de Thalès. Ça ne me plaît pas.
Pourquoi ?
Parce que, par essence, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin d'air, on n'a pas besoin de tout ça pour démontrer le théorème
des milieux.
Alors que pour démontrer Thalès, il nous faut des moyens mathématiques beaucoup plus forts.
Voilà, mais nous, bon, on a pris cette démonstration.
On va le prendre comme une critique.
Non, bien entendu. Mais moi, je cherche vraiment une question. Ça, c'est la critique que Descartes faisait aux éléments d'Euclide. Hein? Il disait, on comprend les démonstrations, on ne comprend pas comment ils ont fait pour les trouver, ces démonstrations. Voilà. Donc, comment on pourrait amener les élèves à s'intéresser aux airs pour démontrer le théorème de Thalès. Voilà la question. C'est une question didactique, hein, ce n'est pas une question mathématique.
Ou au théorème de Pythagore.
Ou au théorème de Pythagore aussi, bien sûr.
Bon, parce qu'il y a un procédé peut-être un petit peu plus simple d'arriver à ça, c'est ne pas démontrer Thalès par les airs, mais démontrer quelque chose qu'on ne démontre jamais au bout du compte rendu. C'est la constance du rapport qui donne le
cosinus,
finalement on ne le fait jamais, qui d'un certain point de vue on pourrait presque dire que c'est un petit pouvoir de Thalès, si on veut un
ben évidemment.
Et bon, la démonstration de la constance du rapport cosinus par les airs est un petit peu plus facile. Mais tout aussi artificielle, hein, je suis d'accord.
Là, on est sur un problème. Alors, bon, il y a eu des transpositions didactiques. Moi, je me rappelle, il y a eu celle de la réforme qui a suivi celle des maths modernes, où on travaillait beaucoup avec les rapports de projection orthogonale, effectivement, et on démontrait Pythagore, on démontrait des théorèmes comme ça. Bon, là, on est un petit peu...
Non, mais c'est une question là qui, moi, m'interpelle. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a besoin des airs pour démontrer des probabilités qui concernent les longueurs ? Alors, au passage, quand je préparais le CAPES... Comme à chaque fois qu'on posait un problème aux élèves, aux étudiants, aux candidats au CAPES, il fallait qu'ils sachent si c'était un problème affine ou un problème euclidien. Dès lors qu'on a des airs, est-ce que c'est un problème affine ou un problème euclidien ? Sachant que Thalès, c'est affine. Or, vous démontrez Thalès avec des airs. Ma moralité, les airs, c'est affine. C'est... Ben, quand je disais ça, j'étais un peu surpris quand même. Et il a fallu pour m'en convaincre que je me dise qu'on pouvait définir la notion d'air sans avoir d'orthogonalité, et que par conséquent, la notion d'air pouvait être bien définie dans un espace affine, avec un déterminant, par exemple. Et j'ai mis du temps à... Ça m'a travaillé un certain temps, ça. Mm-hmm. Mais ça, c'est niveau CAPES. Hein.
Ben oui.
Non, mais ça, moi, j'ai pas de réponse. Hein. Pourquoi les airs pour démontrer des trucs de longueur, c'est... Si t'as une réponse, ben, ça m'intéresse. Hein.
Non, je n'ai pas de réponse, j'ai quelques petites analogies qui viennent. Au bout du compte, ton exposé sur le produit scalaire, il était bien placé, quoi.
Oui, pourquoi ?
Il y a des tas de... Il y a du carré derrière, quoi.
Ah oui, absolument, ah oui.
Ça, c'est sûr.
Voilà. On a quelque chose qui vient.
À la clé, c'est parce que, c'est effectivement, tu as une longueur au carré, sinon ça ne marcherait pas. Donc une aire, éventuellement. Oui, fichtre. Hein.
D'ailleurs, tu commences avec Pythagore, me semble-t-il, non ? Pour montrer leur...
Ah oui, on a besoin de Pythagore
on tourne en rond. Hein.
Mais là, c'est normal. Pythagore, c'est un théorème euclidien, donc on introduit le produit scalaire avec quelque chose d'euclidien.
Oui, bon, c'est vrai.
Là, on a des réflexions qui dépassent largement le niveau de ce qu'on peut faire en collège ou en lycée. Là. Mais il n'empêche. Bon. D'autres, c'est des échantillons de ce que font les équipes en paire. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses qui ont été faites. On a peu exemplifié ce qui a été fait à Poitiers, puisque à Poitiers, ils travaillent de façon un peu différente. Poitiers, ils essayent de prendre un programme entier et puis de voir quelles sont les grandes questions qui peuvent en quelque sorte générer l'étude du programme entier. Et ils s'attardent moins sur la place, au moins dans ce qu'ils écrivent, sur la place qu'ils laissent aux élèves dans les activités. Parce qu'ils n'ont pas le temps de... Ils peuvent pas le faire. On peut pas prendre une année complète d'études et puis d'écrire à chaque jour ce qui pourrait se passer avec les élèves.
Ça peut nous dire que, par exemple, l'introduction du théorème de Thalès avec les triangles semblables et les cas, ça semblait particulièrement intéressant. Mais vous posez la question de savoir s'il était nécessaire d'utiliser le mot semblable de la même année de la quatrième.
Une définition, on a juste dit que quand les angles étaient égaux, les triangles étaient semblables. Hein, voilà. Bon, on n'est pas allé dans les cas de similitude comme on le fait avec le programme de seconde, bon, par exemple. Ça nous a paru une économie de pensée pour dire bon, voilà, ça s'appelle semblable. Bon, vous verrez ça plus tard, c'est semblable.
C'est-à-dire qu'à certains moments, comment tu ferais pour désigner ces choses-là qu'on va appeler semblables si tu n'as pas le terme de semblable? Ah d'accord, donc tu...
Triangle à angle égaux, on dirait.
Triangle à angle égaux, oui, effectivement.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Mmh. Oui, mais il faut bien quelque chose pour les désigner, voilà. C'est...
Ouais. Mmh. Ah oui, triangle à angle égaux.
Il y a un petit danger quand même, c'est que quand on parle d'égalité d'angle, toutes les figures qui ont des angles égaux ne sont pas semblables.
Oui, et ça c'est sur les triangles, ouais. Ça,
c'est... Les coniques. Donc les étudiants sont très surpris quand on ne démontre que deux paraboles ont même forme. Parce que quand on les dessine, c'est pas évident. C'est... Oui, c'est pour prolonger l'étude.
Oui. Je ne sais pas, ça c'est vraiment quelque chose d'ouvert. Je ne sais pas très bien. Alors moi, j'avais regardé le théorème de Thalès. J'avais vu en Russie... On démontre le théorème de Thalès par la méthode d'exhaustion. Alors c'était assez remarquable, quoi. Des élèves de 3e devaient, pour ce qui correspond au brevet, connaître la démonstration du théorème de Thalès dans le cas où le rapport est rationnel, et on ne leur exigeait pas de restituer le passage de Q à R en test, pour ce qui correspond au brevet, quoi. Voilà. Bon, évidemment... Ah, c'est possible, bon, ben ça, c'est la finlandisation, justement. C'est quoi c'est...
Ils sont très proches.
Alors, quand on regarde un petit peu l'histoire du théorème de Thalès, depuis le tournant du 19e, 20e siècle, là, on n'est jamais allé plus loin en France que essayer de démontrer sur les rationnels, et puis on s'arrêtait, on admettait. Hein, voilà. Donc, et la démonstration par les airs, qui est dans les éléments d'Euclide, bien sûr. Alors j'avais regardé, c'est au moment de la réforme des programmes de 1985-86, etc., qu'il y a eu un article dans, je crois, le bulletin vert de l'APM, si mes souvenirs sont bons, en disant, bon, les professeurs étaient assez embêtés, puisque, bon, Pythagore, on le démontrait avec les rapports de projection orthogonale, bon, on avait des trucs encore comme ça, et puis après, ni le théorème de Thalès, ni le théorème de Pythagore, on arrivait à les démontrer vraiment au collège. Et donc, je ne me rappelle plus qui avait dit, mais pourquoi n'utiliserait-on pas les airs? Et ça a fait florès, et on a retrouvé dans les manuels ces démonstrations. Il est amusant de voir, je me rappelle, que dans les éléments d'Euclide, on démontre Thalès par les airs, et que Pythagore, bien sûr, c'est un problème d'air. Et donc, voilà. Mais après, ça s'est répandu, parce qu'auparavant, Thalès, par les airs, quand on regarde les manuels du début de l'école obligatoire jusqu'à la réforme des maths modernes, à peu près... J'ai jamais trouvé cette démonstration par les airs dans les manuels français. On faisait par les parallèles équidistantes.
Peut-être un commentaire sur ce qu'avait... Moi, ce qui m'intéressait dans ce que Yves vient de nous proposer, là, il y a certaines caractéristiques qu'on n'avait pas pris en compte, par exemple à Clermont. C'était à Clermont, on avait souvent tendance à penser que tout ce qui était études, un peu dynamique, devait se faire en classe sous la responsabilité de l'enseignant. Là, à Marseille, ce qu'il propose, dans ce qu'il a présenté, ça me paraît intéressant, c'est qu'on peut déléguer aux élèves en travail à la maison une partie de cette étude, dès lors qu'elle est préparée à l'avance. et qu'on n'est pas obligé de tout faire en classe. Bon, voilà un point qui mérite sûrement d'être travaillé. Parce que ça permet en quelque sorte de ne pas clore une étude à la fin de l'heure, ça permet de la relancer avec du travail à la maison, et ça permet comme ça de la faire durer sur plusieurs séances sans que ça paraisse artificiel.
Oui, l'idée c'est de bâtir quand même les grandes étapes, collectivement les grandes étapes par lesquelles on devrait passer dans un devoir à la maison, quoi, pour arriver à démontrer l'affaire. De lancer déjà quelques pistes de démonstration, même si elles ne sont pas... Et ça c'est quelque chose qui apparaissait, me semble-t-il, dans un document de vieux, de l'inspection générale, qui disait, qui date de, je sais plus quand, des années 90, qui disait, bon, on peut demander d'ébaucher une démonstration en classe, et puis travailler à la maison, vous mettez ça au propre, vous organisez les idées, bon, il y avait des choses qu'il fallait un petit peu polir, parce qu'il y avait des aspérités, etc. Et ça me paraît un travail mathématique quand même assez intéressant, sans doute pas beaucoup prise en charge, qui ne vit pas beaucoup dans l'école. Bon, voilà. Alors, on commence à élaborer les diverses étapes. Ça fait les questions d'un problème. Et après, ben, on y va, quoi. On a eu quelques pistes et on essaye de travailler soi-même, chez soi.
Oui, autre chose, donc, on essaye de travailler, là, tu le fais bien apparaître sur le théorème de Thalès, c'est est-ce qu'on peut, en quelque sorte, avec une certaine guidance, montrer ce qui conduit à faire une démonstration. Alors j'ai comme exemple, par exemple, dans l'équipe de Lermontoise, il y a un professeur qui enseigne en TS et qui est revenu avec la question suivante. C'était sur l'exponentielle en terminale et il démontrait que l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x par exponentielle de y. Alors je crois qu'il y a une démonstration qui consiste à poser phi de xy égale, on va considérer la fonction exponentielle de x plus y sur exponentielle de x. On dérive et on démontre que on dérive par rapport à x et on démontre que c'est une constante, on fait x égale 0 et à ce moment-là on a la relation. Et il nous a dit voilà, j'étais un peu embêté parce que il parle un peu comme ça. J'ai eu une question d'élève à ce moment-là qui m'a dit "Ah, monsieur, je comprends bien ce que vous avez fait là. Mais comment vous avez pu penser à la fonction exponentielle de x plus y sur exponentielle de x avant de la dériver ?" Alors voilà, je crois que c'est essayer de répondre de façon anticipée à ce type de questions des élèves. Ça fait partie aussi du travail. Au passage, ça nous a fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce qu'on aurait pu apporter comme réponse à l'élève. Ce que nous a dit le prof, j'y ai pas réfléchi a priori, donc il n'a pas su répondre, certes. Donc il nous a posé la question. Je vous donne parmi les pistes qu'on a explorées, ce que ça nous a conduit à regarder. C'est par exemple sur la fonction exponentielle. Oui, dans sa classe, il avait fait démontrer que la fonction exponentielle n'était ni un polynôme ni une fraction rationnelle. Oui, parce que c'est une question, après tout, on a une nouvelle fonction. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas déjà une fonction qu'on connaîtrait? Bon, simplement avec des propriétés assez élémentaires sur les polynômes et les fractions rationnelles, en terminale, ça doit être jouable. Si c'est une fonction un peu plus compliquée avec des radicaux, là, il n'a pas osé aborder la question. Enfin, il a dit le résultat, c'est une fonction qu'on ne peut pas formuler avec les fonctions que vous connaissiez déjà. Ensuite, question qu'on peut se poser, si c'est une nouvelle fonction, si je me donne la valeur de x, comment je peux calculer l'exponentielle de x? Bref, j'ai la calculatrice, certes, qui va me donner le résultat, mais comment ils font pour calculer? Alors, ça nous a conduit à regarder un petit peu les algorithmes qu'on utilise dans les calculatrices, en particulier l'algorithme cordique. Il suffit... Ça pourrait donner l'objet d'exercices dans les classes de TS. L'algorithme consiste en quelque sorte à utiliser cette propriété, justement, à connaître quelques valeurs particulières, bien choisies, et ensuite, par un jeu d'approximation, vous faites un calcul qui conduit à des résultats certes approchés. Et ensuite, ça nous a conduit à une réflexion un peu plus générale sur la fonction exponentielle. À quand c'est qu'on va trouver la fonction exponentielle? Eh bien, par exemple, si je vous dis que si vous considérez un phénomène naturel, une quantité dont la variation est proportionnelle à la quantité de départ, première propriété, et deuxième propriété, sa variation ne dépend que de la durée de variation et pas de la date à laquelle elle se produit, c'est ce qu'on a avec la fonction en probabilité, mais vous l'appliquez à n'importe quelle fonction, vous avez une fonction qui vérifie f de x plus y égale f de x, f de y. Si vous dérivez, à ce moment-là, vous avez vous avez y prime égale à y. Ce qui fait qu'on renverse la question, là, et que la propriété fondamentale de l'exponentielle de x plus y égale exponentielle de x, exponentielle de y, vient en quelque sorte de l'examen de phénomènes naturels qui obéirait à un certain type de loi. Bref, voilà le type de cogitation qu'on a. Alors ensuite, une fois qu'on a cogité comme ça, reste à en voir ce qu'on en fait avec les élèves. Ou du moins, ça nous conduit à nous à réfléchir pas mal. Et éventuellement, on peut, par exemple, ce que nous on a élaboré sur la fonction exponentielle, bah, de toute façon, les programmes n'autorisent pas un prof en quelque sorte à partir de ce type de réflexion. C'est... Non, mais ça veut quand même dire que ça nous oblige, nous, à nous mettre au travail aussi, pour se poser des questions et tenter d'y répondre.
Oui, et là on comprend pourquoi ça échappe, bien sûr, au travail individuel d'un professeur et que ça devrait engager toute la profession. Les questions qu'on est en train de soulever actuellement, me semble-t-il, il faudrait sans doute qu'il y ait des structures, du temps, etc., pour utiliser la force collective de la profession pour essayer de faire émerger quelques réponses qui seront peut-être insatisfaisantes dans la mesure où parfois ben, on n'arrive pas à sauter au-dessus des obstacles, mais enfin, tout au moins que cette problématique, ces questions, même si on n'arrive pas à les résoudre, existent. Parce que, bon, parfois on a un peu le sentiment que on connaît un peu des mathématiques et donc ça va aller tout seul pour les enseigner. Or, bien sûr, les questions sont bien plus délicates que ça. Et ça, on en parlait à midi dans la queue, là. Il paraît que les Chinois travaillent un petit peu comme ça. Les Japonais, apparemment, je le disais hier, lorsqu'il y a un problème délicat d'enseignement des mathématiques, on fait des concours. Les Chinois se regroupent par circonscription ou bon, regroupement géographique pour essayer d'élaborer des solutions. J'ai vu au Danemark... Les professeurs de mathématiques, et bon, je pense que c'est vrai dans les autres disciplines, ne prennent pas de manuel. Ils élaborent eux-mêmes le manuel de l'établissement, qui vont améliorer, rectifier, retoucher d'année en année, etc. Bon, il y a cette sorte de travail collectif. Moi, j'ai un peu le sentiment que souvent, les professeurs sont seuls, pas beaucoup aidés dans les difficultés qu'ils rencontrent, quoi. Et que, ben, une fois la formation initiale passée, ben, après... un peu seul, quoi. Alors, il y en a quelques-uns qui sont dans des associations, qui travaillent dans les IRM, etc. Mais les autres... Oui, alors que nous, on est plutôt dans une position en France où, qui a été, on l'a entendu dans la bouche des ministres, quelle que soit la couleur politique, c'était un petit peu... Il y a sans doute quelqu'un, un prof, dans un coin en France... qui a trouvé des bonnes méthodes, etc. Ça, on l'a vu au niveau de la lecture, de l'écriture, etc. Et bon, on peut le généraliser au niveau des mathématiques. On en est quand même à réfléchir. Il y a un petit génie dans un coin, quoi. Il y a un freiné qu'on ne connaît pas, qui bidouille des trucs, et puis qui a trouvé la pierre philosophale. Alors que dans d'autres pays, c'est l'inverse, quoi. On met en commun les forces pour essayer d'avancer. Bon. Ça, c'est un point quand même... culturel, comme tu le disais, de civilisation, je sais pas.